à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Nous n'avons pas à avoir honte de notre bilan. Hier soir, Emmanuel Macron a pris les devants alors que des commissions d'enquête se mettent en place sur la gestion de la crise. Il a défendu l'action du gouvernement, reconnaissant quand même des failles qu'il promet de corriger. Le président se voulait surtout porteur de bonnes nouvelles avec l'annonce d'une reprise de l'école redevenue obligatoire, de l'activité dans les restaurants, la réouverture des frontières à l'intérieur de l'Europe. Pour la suite, l'après, il se contente de grands traits, travailler plus pour produire davantage, reconstruire une économie écologique, solidaire et sociale pour une France indépendante, le tout sans augmenter les emplois. Alors pourquoi cette prise de parole? Quelle est sa réponse aux critiques sur la gestion de la crise? Où conduit le chemin, comme il l'a dit lui-même, dessiné hier soir? Macron, nous avons bien fait, ce sont les mots du président et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Votre dernier édito, Jeudy Politique, est intitulé « Macron 90 jours en enfer ». Et Emmanuel Macron, je le rappelle, perd 7 points dans votre dernier baromètre IFOP Paris Match. Françoise Fressoz, vous êtes éditorialiste au journal Le Monde, à la une du Monde datée de demain. Macron, travailler et produire davantage, nous y reviendrons. Avec nous ce soir, Jérôme Fourquet, vous êtes le directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre dernier ouvrage, L'archipel français, publié aux éditions du Seuil. Enfin, Swazik Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique du journal Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Merci participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est peut-être ce qui restera de cette intervention, Bruno Jeudy, hier soir, un président de la République qui, après une crise historique, estime que la crise a été bien gérée.
Oui, il s'est en quelque sorte fait auto-féliciter. Je crois que c'est Libération ce matin qui dit ça et c'est pas tout à fait faux. Finalement, au moment où les députés, les oppositions vont ouvrir les commissions d'enquête parlementaires, demain à l'Assemblée nationale, la semaine prochaine au Sénat, que tout le monde va être auditionné, il prend les devants et il tire lui-même le bilan de ce confinement-déconfinement qui restera quand même comme une période inédite, 90 jours
en enfer.
Je l'ai dit, et en enfer, mais aussi avec toute la difficulté d'un président qui a eu des hauts et des bas pendant cette crise. Il y a eu des interventions qui étaient très bonnes, notamment l'avant-dernière. J'ai trouvé que hier soir, il tirait le bilan, j'allais dire, c'est normal, sur ce qui est positif. Il ne s'est pas attardé sur les...
On n'est jamais mieux servi par soi-même.
Hein. Absolument, mais... J'ai envie de dire qu'il a surtout cherché à valoriser les bonnes nouvelles. Jusqu'à présent, c'était le rôle dévolu au Premier ministre, puisque c'était le Premier ministre qui a été chargé d'exécuter le plan de déconfinement. Et il s'en sortait plutôt bien. Emmanuel Macron, c'est le président de la République. Il a considéré qu'avec un peu de retard dans les sondages, un Premier ministre à qui ça réussit cette communication, il a voulu aussi le faire. Et donc voilà, il a pris les bonnes nouvelles. Pour le reste, on est resté un peu dans les...
On va y revenir, oui.
On est resté dans le flou même. J'ai trouvé que c'était même décevant. La deuxième partie nous a répété en gros ce qu'il nous avait dit en mieux la dernière fois. Il nous a plongé un peu plus dans le doute de ce qu'il veut vraiment faire. J'ai trouvé que c'était un président qui cherchait à gagner du temps, moi, sur la suite. Ouais. Et comme on dit à l'Élysée, parfois... Pour le monde d'après, on n'est pas prêt pour l'instant.
On peut y revenir quand même, parce qu'il y a quelques grands traits, grandes lignes qui ont été énoncées par le chef de l'État. Jérôme Fourquet, à votre avis, comment ça peut être reçu en regardant attentivement les sondages que vous faites au quotidien, il y a sans doute une colère qui s'est exprimée sur la gestion de cette crise. Comment ça peut être reçu, un président qui dit, en gros, dans l'ensemble, on a bien géré, on n'a pas honte de la façon dont on a géré cette crise? Jérôme Fourquet, qui ne m'a pas entendu peut-être, si.
Voilà. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que disait Bruno Jeudy, Emmanuel Macron essaye de mettre en perspective ce qui s'est passé, essaye de faire autant que se peut taire les critiques, parce qu'il sait que immanquablement, elles ne vont pas tarder à venir. Il y a peut-être aussi cette petite concurrence avec son Premier ministre, donc essayer de tirer les bonnes nouvelles et le bilan à lui. Je pense que les Français étaient attentifs et attendaient un certain nombre de réponses précises, notamment sur les vacances, sur le rythme du retour à l'école. Et donc là-dessus, il y a des annonces qui ont été fortes, mais elles vont immanquablement ressusciter des débats et des commentaires, notamment sur l'école, en disant est-ce que tout cela est bien raisonnable de relancer une aussi grande machine que celle de l'éducation nationale à seulement maintenant 10 jours de la fin des cours. et avec ensuite, pour la plus longue perspective, un certain nombre d'interrogations sur la capacité et les marges de manœuvre du gouvernement pour relancer une économie sur des projets très très ambitieux d'indépendance nationale, de transition écologique, alors que les marges de manœuvre sont aujourd'hui quasiment inexistantes.
Et on va reparler de tout ça, Jérôme Fourquet. N'allons pas trop vite. Si on reste sur cet aspect-là, c'est pas rien, encore une fois. On en a fait des émissions les uns et les autres. On a raconté les problématiques sur les masques, sur les tests, c'était pas si loin. Un chef de l'État qui dit, on a bien géré, on n'a pas à avoir honte de notre bilan. Ce sondage, 39% des Français ne l'ont pas trouvé convaincant. Mais dans le même temps, d'autres sondages montrent que les Français adhèrent plutôt au rythme du déconfinement. Pourquoi ce paradoxe? Qu'est-ce qui se passe entre Emmanuel Macron et les Français dans cette crise?
Parce qu'on ne juge pas ou on ne fait pas juger les Français sur la même chose. C'est-à-dire que les enquêtes qui portent sur le rythme et la façon dont on se déconfine donnent aujourd'hui un satisfecit plutôt important et en progrès pour le gouvernement, parce que les Français étaient très inquiets, très dubitatifs sur la façon dont les choses allaient se passer. Et donc on a vu semaine après semaine avec les indicateurs de l'IFOP que, eh bien, de manière inversement proportionnelle à la décrue du nombre de morts, le jugement devenait de plus en plus positif sur l'action du gouvernement, mais aussi l'action des Français eux-mêmes, sur la façon de sortir de cette parenthèse très très particulière. En revanche, et c'est peut-être là-dessus où il y a un amalgame en termes de communication qui est tenté d'être fait par le gouvernement, les Français demeurent très critiques sur un certain nombre de dossiers qui ont émaillé cette période du confinement. Vous avez parlé des masques, la question des tests également. Et donc c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron a essayé de bétonner le débat en disant qu'ils avaient bien fait, qu'il y avait eu des doutes dans la communauté scientifique, mais comme il aime à le dire, il avait pris son risque en annonçant le 13 avril qu'on sortirait du confinement le 11 mai. Et il s'est adressé quelque part un satisfecit, comme pour essayer de eh bien, faire taire les critiques sur ce qui ne s'était pas bien passé. Et insister au contraire sur le fait que collectivement, nous arrivions à relever le défi du déconfinement.
C'est intéressant ce que dit Jérôme Fourquet, Françoise Pressaud, parce que c'est vrai que c'était un moment où là, il a voulu dire aux Français, le 11 mai, vous avez tous douté, j'ai été critiqué, j'étais un peu seule, les scientifiques n'étaient pas tous d'accord avec moi, j'ai tenu et j'avais raison.
Oui, parce qu'à l'Élysée, on vit quand même comme une certaine injustice tout ce qui s'est passé sur la phase du déconfinement, qui a été la séquence d'Édouard Philippe. C'est-à-dire que Édouard Philippe a annoncé un déconfinement, il l'a mené très précautionneusement, mais c'était en adéquation avec, au fond, ce que ressentaient les Français, c'était on se déconfine, mais pas trop vite. Et Emmanuel Macron, lui, avait pris ce risque en disant, maintenant, il faut revenir au travail. Et ce qu'il a voulu dire hier aux Français, c'est de dire, voilà, on a pris le risque et j'ai réussi. Faites-moi confiance. Il y a un autre élément qui joue, à mon avis, dans son attitude, c'est que il y a un certain nombre d'intellectuels, je pense notamment à Marcel Gauchet, qui dresse le bilan de la crise en disant, au fond, on assiste à un déclassement français par rapport aux voisins allemands. On a vu que l'État, dont on attend tout, a failli dans la prévention. Et donc, il y a tout ce discours des clinistes qui, au fond, il essaye de lutter contre parce qu'il a été élu en 2017 pour dire aux Français, vous n'êtes pas dans un rang inférieur, on tient notre rang. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a aussi évoqué l'accord franco-allemand, où il a été vraiment très proactif pour essayer de dire à la chancelière, il faut qu'on arrive à une mutualisation des dettes. Et donc, il essaye de dire aux Français, arrêtez de vous considérer comme déclassés, arrêtez de broyer du noir, on peut y arriver. Et s'il recense, il a pas dit on a tout bien fait. Il a dit il y a des choses qui vont pas, mais si je veux bien les voir, c'est pour essayer de les corriger. Donc il est toujours dans cette vision. Au fond, c'est un peu le dernier gaulliste, lui. C'est quelqu'un qui a une haute ambition du pays et qui veut dire aux Français on peut y arriver. Et il a un peuple qui est beaucoup plus critique et qui, à mon avis, a beaucoup plus de difficultés à se mettre en train. L'autre enjeu pour Emmanuel Macron, c'était de dire, au fond, maintenant le confinement, ça suffit, on est face à une récession très grave. Alors, il n'a pas du tout dramatisé la situation économique parce qu'il veut jouer sur l'optimisme. Mais on sent aussi à l'impatience à l'Élysée de dire maintenant, il faut se retrousser les manches, il faut travailler pour sortir de cette période où on était encore à moitié au travail parce que l'école ne repartait pas vraiment. Donc c'est vraiment terminer la séquence du confinement pour dire maintenant, on passe à autre chose.
une nouvelle étape et qui commence par un bilan qu'il a dressé lui-même, hein, on le disait, Souazik Kemener, de son action et de l'action du gouvernement. C'est pas rien parce que dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, il va y avoir une commission d'enquête sénatoriale, une commission d'enquête parlementaire qui vont décrypter tout, semaine par semaine, jour après jour, toute la période du confinement et la façon dont la France a géré cela. Donc quelques jours avant, il donne sa lecture.
Oui, on est dans une concurrence de discours médiatiques. Il va y avoir d'un côté ce qu'on va entendre qui va venir de l'Assemblée nationale, effectivement, et puis du Sénat plus tard. Et de l'autre côté, le président de la République qui essaie de nous faire changer de focale. C'est-à-dire, ne regardez pas ce qui s'est passé avant le confinement, ne regardez pas le début de l'épidémie où, effectivement, il y a des ratés que tout le monde reconnaît aujourd'hui sur la question des masques, des tests, vous en parliez à l'instant. Et puis, regardez plutôt ce choix que nous avons fait. Il dit même à un moment le choix humaniste. Alors c'est intéressant parce que c'est le choix humaniste de placer la santé au-dessus de l'économie en vous demandant de rester chez vous. Et ça, c'est un discours qu'on entend dans tous les partis. Même François Ruffin, quelqu'un comme François Ruffin, a reconnu ce moment-là en disant le confinement, c'était ce moment-là. Donc il essaie de créer de la concorde autour du confinement. Alors, en même temps, ce confinement, il a des conséquences économiques terribles dont on n'a pas encore vu toute l'étendue aujourd'hui. Mais c'est vraiment changement de focale pour maîtriser le récit médiatique. Et d'ailleurs, ça va de même avec ce qu'on a entendu venant de l'Élysée, la volonté d'avoir une propre commission de contrôle qui pourrait aussi évaluer le travail qui a été fait pour que ce ne soit pas entre les mains des parlementaires, en sachant que ce n'est pas la commission... c'est pas la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui pose problème, c'est évidemment celle du Sénat. On se souvient de l'affaire Benalla, donc c'est vers là que regarde la majorité en se disant bon, il y a un travail qui va être fait. On va revenir en permanence sur les jours qu'on a vécu au tout début de l'année. On n'a pas fini de faire dur sur place. Donc ce qu'Emmanuel Macron essaie de faire, c'est d'enjamber ce moment délicat et puis d'essayer d'amener les Français à voir plus loin. Pardon.
Et il va aussi emmener les enfants à l'école. En tout cas, il va essayer. Alors, il y avait un consensus lors de sa dernière intervention, mais cette fois-ci, les oppositions ont repris de la vigueur pour dénoncer une prise de parole en trop. Mais le président, qui avait accéléré le déconfinement du 11 mai, a tenu à annoncer lui-même aux Français le retour des jours heureux, l'ouverture d'une nouvelle étape, la reprise du travail. Magali Lacrosse, Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
Il y a 3 longs mois, venait l'annonce du confinement. Hier soir, à la télévision, le président nous a parlé de la vie d'après et de la liberté presque retrouvée.
Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Nous allons retrouver, pour partie, notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France.
Réouverture des écoles, de la maternelle au collège, avec présence obligatoire des élèves et protocole sanitaire allégé.
Je suis ravie, voilà.
Alors moi, je prends les transports, je pense qu'il y a plus de risques presque que dans une classe, quoi.
Réouverture des bars et des restaurants dès aujourd'hui. Un déconfinement accéléré pour toute la métropole, pas suffisamment expliqué, selon la gauche de la gauche.
Je me suis demandé pourquoi il parlait. Ouais. Parce que les informations nécessaires, il les a données en une minute. Pourquoi, justement, peut-on déconfiner davantage? La préfecture de Seine-Saint-Denis me dit, par exemple, que les Barnum tests en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, en ce moment, ne donnent plus quasiment aucun cas. Ça, c'est des informations où on comprend pourquoi on rentre en zone verte.
C'est surtout le style du discours et le ton d'un président jugé un peu trop satisfait de son bilan que la classe politique étrille.
Clore aujourd'hui le moment entamé avec le début du confinement n'avait rien d'une évidence. Nous avons bien fait. Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays. Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de notre bilan. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions.
Non, monsieur Macron, il n'y a pas de quoi être fier de ce qui a été fait par le gouvernement pendant cette crise. Ce satisfecit est lunaire. Macron, jaloux de son Premier ministre, fait les annonces positives à sa place.
Des annonces, mais aussi quelques pistes qui dévoilent les contours politiques du monde d'après, vu et dessiné par le président. Avec un maître mot, l'écologie, qui n'a pourtant pas convaincu les Verts.
J'en ai marre de ce greenwashing. Enfin, quel pays aujourd'hui, quel dirigeant ne peut pas parler d'écologie? On a le dérèglement climatique qui est engagé. On a vu l'année dernière en Australie des méga-feux. On sait que ces zoonoses, ces coronavirus, proviennent de la prédation à l'égard des habitats sauvages. Donc ne pas parler d'écologie, ça serait être complètement à côté de la plaque. Mais l'enjeu, c'est d'agir. Le maire, le ministre de l'économie, s'était engagé. Il avait dit que la France serait exemplaire. Il n'en est rien. On n'a rien fait. Alors que ça peut créer des emplois et soulager les factures des ménages. Voilà la réalité de l'action d'Emmanuel Macron, un recul.
La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres.
Emmanuel Macron invoque une décentralisation du pouvoir vers les régions, mais aussi vers l'Europe. Une aubaine pour une présidente de région, hors de propos pour le Rassemblement national.
Quand l'État a voulu tout faire tout seul, il a échoué. C'est le cas pour les masques, c'est le cas pour les tests. En revanche, quand il s'est ouvert, qu'il a lâché prise, qu'il a accepté que les régions puissent acheter des masques, qu'il a accepté que tout le monde puisse faire des tests, à ce moment-là, il a permis de donner de l'oxygène. Tout ça, ça nécessite vraiment un acte fort de lâcher prise de l'État. J'ai entendu des paroles, mais j'attends les actes.
On a le droit d'être fédéraliste européen, on a le droit de défendre ces idées-là, moi. J'ai du respect pour ceux qui défendent ces idées-là, il n'y a pas de souci, on est en démocratie. Mais on ne peut pas être fédéraliste européen et défendre la souveraineté nationale. Mais c'est contradictoire.
Depuis ce matin, les frontières françaises ont rouvert, simultanément avec l'Allemagne et la Belgique notamment. Quelques pays en Europe suivent le pas avec quelques restrictions à l'arrivée. D'autres, comme l'Espagne, gardent encore un peu leurs portes closes. Le président, lui, a donné rendez-vous aux Français au mois de juillet pour préciser son monde d'après.
Alors nous allons revenir sur le monde d'après. Mais d'abord cette question, quel est l'intérêt d'obliger tous les enfants à retourner à l'école 2 semaines avant les grandes vacances? C'est Serge en Haute-Garonne qui se pose cette question. Vous parliez tout à l'heure des enfants, Swazik Kevener. Quel est l'intérêt? Effectivement, on sent monter une petite colère, y compris d'ailleurs, c'est cet après-midi, certaines réactions de chefs d'établissement qui disent « mais de toute façon, on n'y arrivera pas ».
Oui, ils attendent le nouveau protocole sanitaire qui doit être distribué par le ministère de l'Éducation nationale demain après-midi. Il y a une raison toute simple. La question est de savoir comment va se passer la rentrée de septembre. Donc c'est une forme de répétition générale, c'est-à-dire comment les enfants reviennent à l'école, comment on fait. Alors c'est vrai que pour 2 semaines, c'est très très court. Il y a des enfants qui ont déjà été expédiés dans les 4 coins de France, justement parce que les parents ne pensaient pas qu'ils pouvaient retourner à l'école et qu'ils ne pouvaient pas continuer à s'occuper d'eux parce que eux retournaient au travail. Donc ça va susciter des mouvements de population, du réajustement. Mais l'intérêt, c'est aussi de taire une certaine peur, c'est-à-dire que l'appréhension est descendue depuis le 11 mai. Les enfants ont recommencé à aller à l'école, assez peu nombreux tout de même. Et donc, l'idée, c'est de dire oui, l'éducation nationale peut encore fonctionner. Alors, c'est vrai que quand on commence à recevoir, comme tous les parents d'ailleurs, ce qui va être mis en place, il y a une grande inquiétude de la part des directeurs d'établissement en se disant s'il y a ce fameux mètre latéral entre les enfants, on n'y arrivera pas, on n'a pas assez de place dans les classes. Donc, c'est vrai qu'on est reparti pour une semaine qui va être de discussion, peut-être de polémique sur ce sujet-là, avant la réouverture totale des écoles et des collèges qui est programmée pour lundi prochain.
Obligatoire, l'école.
Oui, c'est le retour de l'école obligatoire. Ça avait fait polémique au moment où le président annonce que ce sera, en gros, sur la base du volontariat. À l'époque, il y avait une polémique, une partie de la classe politique avait plutôt critiqué ça, il y avait même beaucoup de critiques, et je crois que c'était quand même le bon choix. C'était très compliqué, même si ça a été incompris, c'était compliqué de rendre ça obligatoire. Le ministre de l'Éducation nationale a eu beaucoup de difficultés, mais la grosse difficulté, elle n'était pas là, elle était surtout chez la peur des parents. Ça a vraiment été... Et les enseignants qui, pour beaucoup... Bon, alors, c'est pas dire tous les enseignants, mais on a vu les syndicats tout de suite se dresser face au ministre en disant c'est pas possible, on peut pas
travailler. Parce que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies.
Les conditions sanitaires, et on est parti avec une école qui a très peu, très mal fonctionné et qui finalement a ralenti cette reprise. Parce que c'est ça, et au fond, la décision d'hier, c'est parce que maintenant il faut y aller.
On
accélère le déconfinement, mais c'est surtout l'école, parce que sans l'école, les parents ne peuvent pas aller travailler.
Françoise Fraisseuse.
Moi, je reste sur ma position. J'ai déjà développé ici. Je trouve que le grand ratage du déconfinement, c'est l'école. Je trouve que les conditions sanitaires, je comprends au début qu'il y ait eu une inquiétude. Les syndicats et les maires ont énormément poussé pour qu'on gonfle ce code de sanitaire. Mais c'est devenu une sorte de bible absolument impraticable. Et on a vu beaucoup d'enseignants qui ne revenaient pas, des élèves qui ont été perdus dans la nature depuis février. Je trouve qu'au niveau des inégalités scolaires, c'est absolument catastrophique. Et je pense qu'au moins la semaine qui va faire, ou peut-être les 10 jours, ça permettra au moins aux élèves qui ont perdu tout contact avec l'école de retourner, et peut-être aux enseignants d'évaluer un peu les dégâts, parce que je pense que l'année prochaine va être très très compliquée à organiser, non seulement à cause des conditions sanitaires, mais parce qu'il y aura eu beaucoup d'inégalités. Certains ont pris des cours particuliers pendant qu'il n'y avait pas cours, d'autres ont complètement abandonné l'école. Et je trouve que là, Emmanuel Macron a aussi, comme dit Bruno Jeudy, sifflé la fin de la récréation du confinement en disant maintenant on reprend, y compris à l'école. Il n'y a plus de risque pour le moment, donc il faut vraiment repartir.
Jérôme Fourquet, on avait compris que la prochaine étape d'annonce en matière de déconfinement, elle était fixée par le Premier ministre Édouard Philippe. Il y a une volonté de la part du chef de l'État d'aller un peu plus vite que ce qui était prévu?
Oui, manifestement. Alors, il y a sans doute un agenda politico-médiatique avec la concurrence, entre guillemets, avec son Premier ministre. Mais comme ce qui a été dit, je pense qu'Emmanuel Macron a un certain nombre de remontées du terrain, à la fois en termes de décrochage scolaire et puis aussi en termes d'impact économique très grave de cette mise à l'arrêt de notre pays pendant 2 mois. Et il veut, comme vous l'avez dit, pousser les feux. Et de manière très symbolique, c'est l'école qu'on a fermée en premier. Vous vous souvenez que les premières annonces avant le confinement, c'était de fermer les écoles. Et donc, la symbolique de redémarrage de la vie normale du pays, c'est que toutes les écoles de France soient réouvertes avec les problèmes techniques et logistiques que ça pose. Mais je pense que le président de la République estime permettre le luxe d'un démarrage tardif.
Alors, on a un petit problème de son avec vous, Jérôme Fourquet. On va peut-être relancer votre liaison. Arrêtons-nous sur ce qu'on a entendu dans le premier reportage aussi sur ces leçons qu'a tirées le président de la République, notamment en termes de décentralisation. Il a dit clairement qu'on ne peut plus tout décider de Paris. Typiquement, là, pour l'école, c'est quand même à Paris que ça se décide. Ou est-ce qu'il y aura une marge d'adaptation de la part des collectivités pour dire oui, c'est possible, non, ce n'est pas possible?
C'est intéressant ce sujet parce que là aussi, le président fait un tête-à-queue par rapport à son début de mandat. Hein. Souvenons-nous, au début, il n'est pas du tout dans ce partage des tâches, des rôles avec les collectivités. Ça se passe même très mal en début de mandat avec les collectivités locales, les crises de nerfs avec les associations des maires de France, les présidents de région. Et là, la crise du Covid a révélé un certain nombre de pesanteurs, de lourdeurs dans l'administration centrale. Il l'a reconnu. Le 13 avril, il avait vraiment été très, très clair. Et là, il est allé un petit peu plus loin. C'est une des pistes qu'il ouvre, qui est justement, eh bien, dans cette idée d'être moins vertical et d'être un peu plus, j'allais dire, partager à la fois le diagnostic et puis peut-être trouver les bonnes solutions. Il laisse entendre qu'il va falloir revoir l'organisation de l'État. Alors, la grande loi de décentralisation, il ne va pas jusque-là. Lui, il préfère souvent le mot de déconcentration. Mais ça vaut aussi quand même.
C'est pas plus clair. Hein.
C'est pas plus clair. Mais on voit bien quand même que l'idée sous-jacente, c'est que l'État, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, a montré ses limites. Il est un peu au bout du rouleau dans certaines administrations. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne mal. Et que sur la crise, il y a des choses qui ont quand même fonctionné. Le maire, ça reste quand même quelqu'un, une administration qui est plus agile. Même les régions ont montré une certaine agilité. Alors, il y en a qui critiquent, qui disent oui, mais c'était juste pour distribuer des masques et se faire.
Il n'a pas cité les régions, d'ailleurs.
Non, il n'a pas cité les régions, mais ses proches le disent assez facilement, c'était pour se faire de la pub pour les élections l'année prochaine. Je trouve que c'est voir les choses un peu trop par l'angle politicien et que ce déconfinement a réussi parce que finalement, tout le monde s'est un petit peu mis, a été tendu vers le même objectif et qu'un cas, suivant les régions, suivant les départements, suivant même les communes, ben parfois ça a très bien marché et ça a permis de fournir, d'alléger, de mieux faire fonctionner le collectif.
C'est pas la première fois qu'il fait ce diagnostic-là. Il l'avait fait en d'autres temps, au moment donné aussi, même je crois au moment de la crise des Gilets jaunes. En tout cas, il y avait cette volonté dans l'acte 2 de dire on va davantage écouter, que ce soit les syndicats. syndicats, les responsables locaux. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez vraiment qu'il est en train, attention, de se réinventer, Françoise Fressoz ? Parce que visiblement, c'est son objectif.
Je pense qu'il y a une chose qui semble acquise, c'est le phénomène de déconcentration. C'est-à-dire qu'il a fait le constat qu'au fond, toutes les politiques de suppression d'emplois qui ont été menées au cours des dernières années, notamment sous Nicolas Sarkozy, ont énormément dépeuplé les fonctionnaires locaux, alors qu'ils ont laissé un centre parisien assez fort.
Par exemple, les suppressions d'emplois dans la fonction
publique
territoriale.
Dans la fonction publique. Il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois, notamment dans les préfectures. Donc, il veut essayer de faire un mouvement de déconcentration, c'est-à-dire de mettre des fonctionnaires au plus près du terrain, et pour essayer aussi de rétablir un peu le lien entre l'État et le citoyen dans le service public, parce que en fait, il constate, on a vu un État qui était souvent qui a eu des difficultés à se procurer des masques, à gérer tout ça, parce qu'il n'est pas fait pour ça, et qui est vécu comme très éloigné du citoyen. Donc ça, c'est acquis qu'il veut faire un grand élément de déconcentration. Après, il y a le sujet de décentralisation. Et là, il est toujours à dire, moi je veux bien décentraliser, mais je veux pas rentrer dans le jeu des élus locaux qui, au fond, demandent des compétences et après continuent toujours à se tourner vers l'État en disant finalement, on n'a pas les moyens pour le faire, vous pouvez nous aider. Donc, je pense qu'il va y avoir une discussion assez serrée avec les élus locaux pour voir. Mais, et puis, il faut quand même voir aussi qu'une grande loi de décentralisation à ce moment-là du quinquennat, ça n'aura pas d'effet sur ce mandat-là. Donc, est-ce qu'il a en puissance politique pour le lancer la dernière année du quinquennat pour que ça fasse un grand effet blast ? Ça, je ne suis pas certaine de ça. Mais en tout cas, il a compris qu'il fallait qu'il partage le pouvoir parce qu'on demandait trop au pouvoir central et que ça devenait assez dangereux.
Il y a une attente là-dessus, Jérôme Fourquet ? Parce qu'encore une fois, je reviens sur cette phrase qui est d'Emmanuel Macron lui-même, le 13 avril, il avait expliqué qu'il voulait se réinventer et lui-même. Et là, il a eu aussi des mots approchants hier soir. Est-ce que ça, par exemple, ça peut faire partie des réponses attendues par les Français, le fait de dire on arrête de gérer de Paris et on donne davantage de responsabilités aux collectivités, aux maires, aux régions, que sais-je ?
Alors effectivement, déjà dans le vocabulaire que le président de la République emploie, il y a eu des changements, puisque vous vous souvenez que les corps intermédiaires n'étaient pas forcément dans sa géographie habituelle. Et donc là, il les a expressément cités hier. Et ensuite, effectivement, c'est une attente qui est remontée dans l'opinion publique. Dans les enquêtes qu'on a pu faire, près de 70% de la population estime, c'était une enquête qui date du 11 mai, au moment du déconfinement, qu'à l'avenir, il faudrait laisser plus de latitude au terrain, donc aux collectivités locales, aux associations, aux entreprises, pour prendre en charge un certain nombre de politiques ou d'initiatives. L'affaire, par exemple, la polémique sur la fermeture ou l'ouverture des plages en Bretagne, la question, on en a parlé encore une fois, des masques ou des tests qui seraient autorisés ou non dans telle ou telle collectivité, on voit qu'on arrive au bout d'un cycle et que, un petit peu comme il est parfois question en matière européenne quand on parle de subsidiarité, ce terme est un peu techno, mais c'est ça à quoi aspirent les Français, c'est-à-dire que les choses soient gérées au plus près et quelque part, cette crise du coronavirus, ça fonctionnait un petit peu comme un crash test et on a vu que l'État central n'était plus en capacité de répondre de manière rapide à un certain nombre de situations complexes. Alors après, est-ce qu'on a la capacité, comme le dit Françoise Fressoz, à décliner cela concrètement dans les deux ans qui viennent, c'est une autre question. Mais c'est sûr que cette attente de davantage de respiration, aujourd'hui, elle est forte dans l'opinion.
Alors là, on est en train de faire un peu la liste des failles qu'il a reconnues dans la gestion de la crise, puisque si il a dit « nous avons bien fait », il a quand même reconnu qu'il y avait des choses qu'il fallait corriger. On a parlé de la façon dont le pouvoir est réparti en France, il a parlé d'inégalité territoriale, de la lourdeur de notre organisation, et aussi de la dépendance vis-à-vis d'autres continents pour nous procurer certains produits. Ça, c'est vrai que ça a mis les Français en colère, notamment Soazic Kemener, quand ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas de masque parce qu'ils étaient en Chine, et qu'on n'avait pas de produits pour faire des tests parce qu'ils étaient en Chine. Et il n'a pas utilisé le mot souveraineté, c'est important les mots, il les a choisis, mais il a parlé d'indépendance. Est-ce que ça change quelque chose ou ça veut dire la même chose ?
Disons qu'il essaie de, il va essayer de donner des signaux sur tout un certain nombre de productions stratégiques. Hein. Quand il dit travailler plus pour une production, il y a ça qui est derrière. Effectivement, c'est donner du sens à ce qui va être produit en France. Alors, il a commencé à développer ce discours depuis déjà quelques semaines, mais c'est vrai que est-ce qu'il aura le temps de faire en sorte qu'il y ait des changements visibles d'ici la fin du quinquennat? Parce que finalement, c'est toute la question et c'est ce qu'il dit hier. Il dit il parle des 2 années à venir que je veux utiles pour la nation.
Oui, c'est vrai.
Mais il ne lui reste pas 2 années. C'est-à-dire qu'il y aura la campagne présidentielle, il y aura la campagne régionale des départementales, il y aura le vote du budget. Il lui reste très très peu de temps à Emmanuel Macron. Donc il a des grandes ambitions. Il en a esquissé quelques lignes hier. Mais toute la difficulté pour lui, ça va être de faire rentrer ça au chausse-pied dans le peu de temps qui lui reste. Donc il va falloir faire des choix. Et il ne pourra pas faire tout ce qu'il a exposé hier. Donc est-ce qu'il pourra faire la réforme dont Françoise Pressos parlait à l'instant, qu'on peut ramener un peu à la réforme 3D qui était portée par Jacqueline Gourault, qui devait arriver au Sénat, des concentrations, des centralisations. Ça devait arriver cette année au Sénat. Qu'en est-il? Pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que ça va être remis sur le métier? Est-ce qu'il va plutôt choisir une réforme constitutionnelle? Il ne pourra pas mener tout de front. Là, pour l'instant, il a fait un programme très large, avec un peu de programme présidentiel aussi. Mais la question, c'est quels seront les choix et qu'est-ce qu'il pourra dire aux Français dans presque 2 ans? Voilà, j'ai fait ça, j'ai réussi à accomplir ça. Donc, sur votre question, effectivement, est-ce qu'il pourra montrer des unités de production en France? Alors, je ne sais pas si c'est des masques, des réactifs pour des tests d'ici 2 ans.
En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes en train de nous expliquer qu'il est entré en campagne hier soir, Emmanuel Macron.
Oui, parce que c'est très très court. Il y a quelque chose de très paradoxal dans ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire qu'il s'est exprimé et puis il a dit qu'il reviendrait devant les Français au cours du mois de juillet. Donc il a une façon de dire qu'il a encore du temps. Donc rajouter un mois. Mais finalement, ce qui est paradoxal, c'est que c'est presque déjà très tard. 60% du quinquennat est passé. Il faut maintenant des priorités très courtes. Certains dans son entourage disent mais il va falloir aller par décret très très vite pour que les Français voient encore quelque chose de l'action d'Emmanuel Macron, parce que on est dans l'habituel moment du quinquennat où ça bascule et les gens commencent à non pas à se positionner pour la campagne présidentielle, mais enfin à se tourner en tout cas vers 2022.
Et certains dans son entourage, et on pense à certains ministres, évoquent l'urgence économique et l'urgence sociale. Et pour la reprise dans certains secteurs, il va falloir attendre, car si les restaurants, les bars, les hôtels ont rouvert, l'activité, elle, est encore en berne, car les consommateurs n'ont pas repris totalement leurs vieilles habitudes, sans parler des touristes qui font tout simplement tourner certaines grandes enseignes et qui sont naturellement toujours absents. Reportage Barbara Steck et Arnaud Fora.
3, 2, 1. Yes. Allez. Yes. Super.
Au Colvert, bistrot au cœur de Paris. Derrière les masques, on devine les sourires et le soulagement.
Après 3 mois, on peut mettre notre premier menu, même si on a un peu ouvert avec les terrasses et qu'on a un peu vivoté en fonction de la météo. Là, on arrive maintenant à faire une belle carte.
Depuis ce matin, les restaurants en Île-de-France sont autorisés à ouvrir leurs salles, un espace qu'il a fallu réaménager.
Donc du coup, on a 1 mètre entre chaque table. Donc là, on a travaillé en quinconce. Donc on perd à peu près 50% de notre capacité.
38 couverts au lieu de 80. 50% de chiffre d'affaires perdu et une inconnue. Les clients seront-ils de retour?
Que ça soit la clientèle française, est-ce que les gens vont venir à Paris, profiter de se dire ça va être calme, on va venir visiter Paris? Est-ce que une clientèle touristique? Malgré l'ouverture progressive des frontières, est-ce qu'on va avoir une clientèle européenne? Est-ce qu'on peut espérer bientôt une clientèle internationale? Ça, c'est au jour le jour. On est un peu obligé d'attendre, de voir ce qui va se passer. On peut moins prévoir qu'avant. J'ai beaucoup de collègues qui sont en faillite. Donc oui, on y pense. On se dit que ça va être compliqué. On se dit, est-ce que ce métier-là va continuer à exister même?
Le secteur de la restauration s'attend à une hécatombe. 20% des établissements pourraient faire faillite. À quelques encablures, les galeries Lafayette ont ouvert leurs portes depuis le 30 mai.
Bonjour.
Le directeur connaît très bien la maison. Il y a commencé comme apprenti à l'âge de 16 ans.
C'est assez calme par rapport à... On est vendredi 13h. D'habitude, le magasin fourmille de clients français et internationaux. Aujourd'hui, on voit que c'est assez clairsemé.
Des touristes internationaux qui représentent la moitié de la clientèle et qui ne feront pas tout de suite leur retour. Résultat, 1 milliard d'euros de manque à gagner, une baisse globale de la fréquentation estimée à 60%, des chiffres vertigineux. Le magasin subit des pertes historiques.
On ne va pas compenser la totalité, c'est une évidence. En revanche, ce que l'on va faire, c'est qu'on va profiter de cette contrainte pour aller continuer à développer d'autres sources de business. Premièrement, on va se concentrer sur peut-être éventuellement des clients parisiens, franciliens, des clients français de manière générale qui ne venaient pas dans le magasin, donc aller les chercher et leur faire découvrir les Galeries Lafayette pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, c'est l'occasion pour nous de réfléchir, quand les clients ne peuvent pas venir au magasin, comment on fait pour que le magasin vienne à eux. Et c'est là que le digital prend tout son sens.
Le magasin mise également sur les promotions, une stratégie partagée par la SNCF. L'entreprise ferroviaire devrait perdre 4 milliards d'euros et les réservations se font attendre. Même si ce jour-là, à la gare Montparnasse, il y a comme un air de retour à la normale.
Ah, moi, je suis très content, vous voyez, tous les Français sont là, ils sont tous masqués, c'est super important. Moi, c'est le premier week-end où véritablement on voit que les Français vont commencer à vraiment partir en vacances et c'est que des bonnes nouvelles.
Un optimisme affiché qui tranche avec la réalité des chiffres. Le taux d'occupation des trains est d'un tiers en semaine et de moitié le week-end. Et la SNCF a même dû annuler 5% des trains cet été.
Avant le confinement, nous avions un plan de transport. Et après ce confinement, nous avons eu besoin d'adapter notre offre, tout simplement. Sur les réservations, nous avons ouvert les réservations de façon massive depuis le 2 juin. Donc effectivement, nous sommes en retard par rapport à l'an dernier. C'est de l'ordre de 10 à 15% des réservations pour le mois de juillet et un peu moins de 10% au mois d'août. Donc les Français peuvent en toute sérénité réserver. Il y a de la place, mais c'est vrai que par rapport à l'an dernier, on est en retard.
La France redémarre donc lentement. Transport, restauration, commerce, tous espèrent à présent que les Français seront au rendez-vous. Des Français qui ont épargné pendant le confinement 55 milliards d'euros.
Et sur ce sujet, il avait un discours assez volontariste. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Françoise Fraisseuse, le président, sur la reprise économique. On n'était pas du tout dans la discussion, dans les mots utilisés par le Premier ministre ou par Bruno Le Maire en ce moment, qui est assez inquiet, pour le moins, de ce qui nous attend, notamment en termes d'emploi, de faillite, etc. C'est une répartition des rôles ou...
Non, ce n'est pas une répartition des rôles. Le président de la République est de toute façon un optimiste de nature. Il l'est tout le temps. Et lorsque Bruno Le Maire est sans doute le premier, d'ailleurs même le premier... pas loin d'être le premier en Europe, en tous les cas, à dire que c'est pire que la crise de 29. Hein, il le dit très tôt, hein, avant même le confinement. Le président ne reprend jamais à lui cette expression. Le Premier ministre est un petit peu en dedans, mais il a aussi une vision assez proche de celle de Bruno Le Maire, à savoir que ça va être très dur et qu'il y a entre 15 et 20% de faillites. Il y a 55 000 faillites en France par an en moyenne. Et là, il y a à peu près 20% de plus dans les mois qui viennent. Et lorsqu'il il annonce les chiffres, on parle d'une diminution de la richesse nationale de entre 11 et 14%. Un nombre de chômeurs comme on n'en a jamais vu. Enfin, on va renouer avec entre 800 et 900 000 chômeurs. Donc c'est une France qui va être en grande difficulté économique. Et le président, lui... Mais il est aussi dans son rôle, c'est-à-dire qu'il doit aussi entraîner le pays, il doit essayer de donner un peu d'espoir. Il y a des secteurs...
Envie d'aller dans les magasins qui sont vides, on l'a vu,
par exemple. Il y a des secteurs qui vont reprendre un peu plus vite que d'autres, mais il faut bien reconnaître que la France est dans cette situation un petit peu différente des autres pays qui fait qu'elle reprend moins vite, parce qu'elle est vulnérable. Les grands secteurs qui amènent de la richesse en France, c'est ceux-là même où la France, qui sont à l'arrêt total, le tourisme. La France, c'est 90 millions de touristes et aujourd'hui, il n'y a plus, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Vous prenez le secteur de la restauration et des cafés très liés aux touristes, c'est 60 milliards de richesses nationales par an. Et là, aujourd'hui, il fonctionnait quoi ? À 20% à peu près ? Donc la France, elle a aujourd'hui, ce qui était sa force hier, est aujourd'hui sa faiblesse dans la reprise.
Et dans son discours, Emmanuel Macron était plutôt sur la ligne « redonnons la confiance aux Français, on ne va pas dramatiser ou surdramatiser ce qui nous attend ». En tout cas, ce n'est pas ce qu'il a joué hier soir.
Il
ne
veut pas que s'insinue dans la tête des Français qu'on est dans un déclassement et que de toute façon, bon, laissons tomber puisque maintenant on a décroché par rapport aux autres. Donc il était plutôt sur un discours, ce qui était frappant aussi, c'était sans arrêt le couple liberté-responsabilité. Il estime qu'au fond, on est resté pendant 2 mois administré par l'État, parce que c'était le confinement, et que maintenant, il faut redonner l'initiative de la liberté. Et c'est pour ça aussi qu'il a tellement mis en valeur tout ce que les Français ont pu multiplier comme initiative pendant le confinement, quand ils arrivaient à se débrouiller. Alors, l'autre chose...
Il dit « travailler plus ». Il dit
alors,
aux Français,
oui,
il va vouloir
qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Qu'est-ce que ça veut dire,
oui. Ça veut dire que ils ont essayé d'élaborer un peu la sortie de crise et ils récusent toute idée d'augmenter les impôts. Et donc, ils disent, pour essayer de, au fond, de ils ont mis près de 460 milliards d'euros de fonds publics pour éponger la crise, qui est énorme. Donc, les déficits explosent à plus de 10%. Et donc, ils se disent, comment est-ce qu'on peut essayer de résorber ces déficits ? Eh ben, c'est en essayant de faire une croissance, de retrouver au plus vite possible la croissance. D'où le slogan « travailler et produire davantage ». Immédiatement, vous avez vu les réactions, c'est « oulala, pas touche au temps de travail, qu'est-ce qu'il est en train de nous
c'était
faire ?»
C'était pas ça l'idée. Ça
non, l'idée, c'est que je pense qu'ils veulent essayer de faire de la flexi-sécurité dans l'entreprise. Ils essayent de monter quelque chose avec le patronat et la CFDT, c'est essayer au fond de qu'il y ait des négociations au plus près de l'entreprise pour faire en sorte que pendant cette période compliquée, on sauve un maximum d'emplois, quitte à ce que ce soit du temps partiel, et qu'on ouvre des perspectives, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, par exemple, du temps partiel, donc un peu moins de salaire, mais avec un peu plus d'intéressement et de participation pour la suite. Mais on voit bien que c'est très compliqué, parce que déjà, les syndicats ont dit, nous, on ne veut pas que les salaires baissent. Donc, ça va être une discussion très compliquée. Mais en tout cas, l'idée...
En tout cas, ce que je retiens de ce que vous expliquez, Françoise Fresso, sur la méthode, ce n'est pas le travailler davantage, allez, il va falloir... C'est on va négocier dans les entreprises pour passer ce moment difficile que va être cette
Ce qui est compliqué, c'est que tout, autant la CFDT, elle a toujours plaidé pour que la négociation se fasse au plus près de l'entreprise. Mais vous avez par exemple FO qui préfère la branche. Donc ils essayent de jouer sur tous les tableaux, l'accord interprofessionnel, les négociations de branche et l'entreprise. Mais alors s'ils arrivent à faire ça, ça veut dire que vous pouvez essayer de créer au fond une association entre l'employeur et le salarié autour de la sauvegarde de l'emploi. Mais moi, j'entends les réactions et tout de suite, ça a été porté sur on ne veut pas toucher au salaire, on ne veut pas baisser les salaires. Et donc, il y a une grande méfiance, même par rapport à cette espèce d'accord qui est entrevu.
Jérôme Fourquet, ça va être difficile à défendre, travailler plus, travailler davantage ? Jérôme Fourquet ?
Oui.
Non, vous ne m'avez pas entendu, alors je vais peut-être vous reposer ma question, non ? Je voulais dire, est-ce qu'aux yeux des Français, c'est difficile d'être à distance, est-ce qu'aux yeux des Français, ça va être difficile à défendre que la réponse à cette crise, ce soit de dire qu'il va falloir travailler davantage ?
Ben, je pense que les enquêtes montrent...
On ne saura pas ce que les enquêtes montrent, c'est dommage. Je vous pose la question à vous, Sazik Kemener, je ne sais pas si vous avez les sondages entre les mains de Jérôme Fourquet, mais c'est vrai qu'on a entendu des réactions assez épidermiques, alors beaucoup de responsables politiques, mais aussi des responsables syndicaux, dire comment ça peut être la réponse à la crise qui vient ?
Oui, parce que la grande peur, c'est la multiplication des accords de compétitivité avec effectivement la promesse de sauvegarde de l'emploi en échange de baisse de salaire ou bien de réduction de RTT, par exemple. Et c'est vrai que on voit bien la réaction de Laurent Berger, par exemple, qui dit non, mais c'est pas travailler plus, c'est travailler tous. Et ce sera ça la question essentielle dans les mois qui viennent, vu le nombre de chômeurs. Hein, Bruno Jeudy donnait tout à l'heure le chiffre qui donne le tournis, 900 000 personnes supplémentaires suite à la crise, 900 000 chômeurs supplémentaires. Donc effectivement, il y a une bataille qui va se jouer sur les termes, sur les choix qui vont être faits. Et on voit bien que les syndicats sont vent debout contre ces accords. Alors il y a déjà quelques exemples, on en a entendu depuis le début de la crise, mais c'est vrai qu'on entend aussi des voix, je pense à Arnaud Montebourg notamment, qui mettait en garde vendredi matin. Alors c'est plus un responsable politique, mais c'est un ancien ministre de l'économie, et il expliquait qu'en général, quand il y a ces accords-là, c'est qu'on finit de toute façon par arrêter l'activité, et que de toute façon c'est un marché de dupes. Alors c'est porté par toute une partie de la classe politique, pas toute la classe politique, mais en tout cas c'est un discours qui va être très difficile à imposer dans le champ politique français.
Je vais essayer de redonner la parole à Jérôme Fourquet, je croise les doigts. Eh ben non, ce sera un échec total, désolé, on va quand même réessayer d'ici à la fin de l'émission, vous m'entendez ou pas ?
Oui, je vous entends.
Alors, allez, c'est à vous.
Alors, reposez ma question, s'il vous plaît.
Ah non. Alors, la question, c'était de savoir si, à votre avis, ce sera bien perçu par les Français, puisqu'on commentait les mots du président de la République qui dit qu'il va falloir travailler davantage.
Alors, effectivement, dans les enquêtes, pour l'instant, ce n'est pas l'état d'esprit de nos concitoyens, notamment pas l'état d'esprit de ceux qu'on a appelés les premières lignes, qui ont été très actifs pendant cette crise et qui attendent, conformément aux annonces et aux déclarations présidentielles faites pendant le confinement, une rétribution financière et symbolique. Et donc, si au lendemain du confinement, à tous ces Français-là, on leur dit en fait, il va falloir travailler davantage, pas forcément pour un salaire complémentaire, ou faire un certain nombre de sacrifices en termes de journées de congés ou de RTT pour rendre le pays plus dynamique, je pense qu'il y aura un malentendu qui sera très... Et puis le deuxième point, vous l'avez montré dans vos reportages, pour travailler davantage, encore faut-il qu'il y ait un carnet de commandes qui soit relativement fourni. Et pour l'instant, on voit que de très nombreux secteurs n'ont pas forcément les clients et les commandes pour faire travailler davantage leurs salariés.
Reconstruction économique du pays, une reconstruction écologique, solidaire. Il parle de rénovation thermique des bâtiments, des transports moins polluants, des industries vertes. Est-ce qu'il va renverser la table ? Quand on voit le chemin qui se dessine, on se dit que ce n'est pas loin de ce qu'il avait proposé au début de son mandat ?
En tous les cas, c'est pas très disruptif et c'est, j'allais dire, un peu classique, à ceci près quand même qu'il confirme son idée d'intégrer l'écologie dans la reconstruction. Ce n'était pas forcément gagné. Après la crise de 2008, on a Nicolas Sarkozy qui nous dit à l'époque « l'écologie, ça suffit ». Au fond, alors 12 ans plus tard, les choses ont changé, la crise s'est aggravée sur ce plan-là. Mais là, Emmanuel Macron nous promet de tenir compte de la transition écologique et d'aller plus vite en la matière. Alors il a aussi un peu l'obligation de l'Union européenne, puisque le plan aussi d'aide de la Commission pour les entreprises, c'est des conditions écolo, des conditions de transition. Les grandes boîtes qui soumettent une demande d'aide, notamment je pense aux compagnies aériennes, je pense au secteur automobile, elles doivent absolument intégrer la transition écologique. Donc il y a aussi une obligation. Après, c'est vrai que quand vous voyez tout ce qu'il nous dit, écologique, souveraine, sociale, solidaire, moi, ça m'a fait penser à Jacques Chirac qui cochait toutes les cases dans ses discours. Et puis après, débrouillez-vous avec ça. Et puis bon, passez à la promesse suivante avec le discours qui suivait. J'espère que ce ne sera pas le cas avec Emmanuel Macron. C'est vrai que, Soazic Kemener disait, il reste 2 ans. On sait bien qu'en fait... De fait, il reste 12 à 15 mois parce que la dernière année sera consacrée à la campagne. Et par moment, on avait quand même l'impression d'entendre peut-être plus un président candidat à sa réélection hier soir qu'un président totalement tourné parce qu'il n'oublie pas. Parce que quand il parle d'indépendance, de souveraineté, il envoie des messages politiques vers une certaine catégorie de la population. Et puis quand il parle du travailler et produire davantage que Françoise détaillait.
Ça, c'est à la droite.
Ça, c'est à la droite. Et clairement, on sait que la matrice macroniste aujourd'hui, elle penche à droite. Donc il continue à essayer. Et on n'a pas parler de la fin de son discours, une partie de son discours qui était totalement tournée vers les questions de communautarisme et de république. Et là, c'était vraiment cranté vers la droite.
Et justement, on va en parler de la fin de son discours. Il était attendu sur ce sujet après un nouveau week-end de manifestations, celle des mouvements contre le racisme et les violences policières et celle des policiers eux-mêmes après les déclarations de Christophe Castaner. Emmanuel Macron a tenté la position d'équilibre défendant les policiers et la République et mettant en cause ceux qui instrumentalisent la lutte contre le racisme. Sans surprise, ce matin, la colère était encore intacte. Victoria Roussel, Émilien David.
Un geste symbolique. Menottes et brassards au sol, dos à la tour Eiffel. Des centaines de policiers ont manifesté hier sur l'esplanade du Trocadéro. Pourtant, quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron leur avait tendu la main.
Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté. Cet ordre... Ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation.
Insuffisant, selon les policiers. Les accusations de racisme et de violence à leur encontre ont réveillé une colère profonde.
Trop peu de personnes nous ont soutenus. Donc, alors que nous sommes là pour protéger et servir la population. Donc à partir de ce moment-là, nous aurions aimé davantage de soutien. Nous aurions aimé que le président de la République parle davantage de nous, hein, sur les sujets que l'on connaît, hein, sur le respect de notre fonction, des réponses pénales fermes contre ceux qui agressent et qui insultent les policiers, le respect de la présomption d'innocence comme chaque citoyen. Nous ne sommes pas des sous-citoyens. Nous avons le droit aussi, nous, policiers, à la présomption d'innocence, comme le respect de nos conditions de vie et de travail.
Mécontentement du côté de la police, mais aussi des manifestants. Samedi dernier, ils étaient encore 15 000 à manifester place de la République à Paris, notamment à l'appel de la famille d'Adama Traoré. Eux aussi attendaient un geste du président.
Il a tenté de rassurer la police, mais il n'a pas tenté de rassurer les familles de victimes de violences policières, les citoyens qui aujourd'hui ne font plus confiance à cette police et qui ne font plus confiance aux représentants politiques du pays.
D'autant qu'hier, une autre phrase du président a particulièrement attiré l'attention.
Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues.
Une référence à la polémique qui vise notamment une statue de Colbert devant l'Assemblée nationale.
L'histoire retiendra qu'il a apporté son soutien à une statue d'esclavagiste. Sur Colbert, par exemple, devant l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui n'est pas glorieux. Et par ailleurs, sur la forme, il faut rappeler à M. Macron qu'il n'est pas décisionnaire en la matière. Les noms de rue, par exemple, dépendent des mairies. Les noms de lycées dépendent des proviseurs ou des conseils régionaux. La statue de l'Assemblée dépend de l'Assemblée. Donc il n'est pas en capacité de prendre des décisions sur ces questions. Quand il dit « la République ne déboulonnera pas », je lui réponds « la République, ce n'est pas vous ».
Alors, comment faire pour apaiser les tensions? L'exécutif aurait plusieurs pistes. Hier, la porte-parole du gouvernement proposait par exemple de rouvrir le débat autour des statistiques ethniques.
Elle permettrait au fond de réconcilier parfois deux rives de notre société qui s'écharpent éternellement. Ceux qui vous disent les Noirs et les Arabes, les personnes de couleur n'ont accès à rien, et ceux qui vous disent au fond, il n'y a pas besoin qu'ils aient accès à quoi que ce soit, le problème ne se pose pas.
Une question qui divise au sein même de La République En Marche. Après Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, Emmanuel Macron a fait savoir à son tour qu'il était défavorable à ce stade à l'ouverture de ce débat.
Je me tourne vers vous, Jérôme Fourquet. Que disent les Français sur ce débat? On entendait dans le reportage ce membre du collectif Traoré qui disait que les citoyens n'ont pas confiance dans la police. Il utilisait des mots à peu près équivalents à ceux que je viens de prononcer. Où sont les Français dans à la fois la colère des policiers, qu'est-ce qu'ils en disent, et à la fois dans la colère de cette France qui ne se sent pas représentée et qui se sent méprisée par la police?
Alors, si on se porte d'abord sur l'image que l'institution policière a bénéficié auprès des Français, c'est encore une image qui est grandement positive et très majoritaire, même si elle a baissé depuis ces affaires. Mais elle est encore très majoritaire. Pour ce qui est des violences policières, effectivement, ça a marqué l'opinion. Et donc, on voit qu'il y a une partie de la population qui soutient ce collectif. Et donc, Emmanuel Macron a essayé de concilier ces deux contraires en faisant cette fois pas forcément du en même temps, parce que la ligne a quand même été assez claire et il a quelque part assez désavoué son ministre de l'Intérieur en prenant un soutien assez ferme à l'égard des forces de l'ordre. D'ailleurs, au moment où ces propos ont été tenus, on a appris ce matin que des échauffourées assez violentes avaient eu lieu à Dijon et à Nice entre des membres de la communauté tchétchène et des dealers ou des habitants de certains quartiers. Et donc, on voit bien que cette parenthèse qui a été le confinement, aujourd'hui, est en train de se refermer et que les problèmes d'ordre public, de banlieue, que nous avions laissés sur pause pendant le confinement, sont revenus à la surface. Et de la même manière que pendant les Gilets jaunes, le pouvoir politique avait eu grandement besoin des forces de l'ordre pour faire face à cette tension sociale, le pouvoir politique aujourd'hui, il a besoin de sa police parce qu'on est dans une société qui est quand même extrêmement tendue.
Les problèmes sont revenus très vite, disait Jérôme Fourquet. Cette question, le discours de Macron a-t-il rassuré la police et la gendarmerie? Alors, on a vu qu'il y avait certains syndicats qui continuaient à manifester dès hier soir, dès après les propos d'Emmanuel Macron, qui attendent plus. Mais quand même, c'était bienvenu.
Bon, ils étaient un petit peu divisés dans leur réaction. Une partie de la police, j'ai entendu le responsable du syndicat des commissaires, disait que bon voilà, les mots étaient les bienvenus. Maintenant, les syndicats attendent des actes. Ils sont maintenant en discussion assez, même confrontation avec leur ministre, s'est montré, j'allais dire, au-dessus des syndicats, parce qu'on critique souvent les ministres de l'intérieur. En gros, on dit à l'intérieur maintenant le ministre cogère la police, les forces de l'ordre, ce sont d'immenses bataillons, dans un ministère où les syndicats sont très importants. C'est probablement la profession la plus syndiquée, ouais. La plus syndiquée en France. Donc je crois qu'on a, c'est certainement pas terminé pour Christophe Castaner et les discussions, négociations, ouais. Avec les syndicats de policiers qui veulent qu'il renonce à un certain nombre de choses qu'il avait annoncées. S'agissant d'Emmanuel Macron, il a été dans son rôle, il les a plutôt rassurés par les mots. Maintenant, on verra les actes du ministre. Moi, je crois surtout que Emmanuel Macron, sur cette partie-là de l'intervention, c'est où il a été, à mon sens, le plus convaincant. Il n'a jamais été aussi net lorsqu'il pointe les séparatistes qui dévoient le combat antiraciste. Il pointe bien le risque de communautarisme en France. Et Emmanuel Macron a changé sur cette question et maintenant il a changé, j'allais dire, de manière nette. J'ai envie de vous dire qu'hier soir, c'était presque parfait. Il manquait juste le mot laïcité et c'était quasiment point fait du point de vue de ce qu'on faisait comme critique à Emmanuel Macron au début du mandat. Mais là, il a été clair, il a été net et en plus, on voit bien qu'il sait. Lui, il a besoin d'incarner l'ordre. Et la République. Et les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Tchétchènes et les Maghrébins, je ne sais pas où, se confronter. Ils voient à Dijon, ils voient les policiers manifester. Beaucoup de désordre.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Je ne connais même pas le nom de notre ministre de l'écologie. Comment croire que l'environnement est une priorité pour Emmanuel Macron, Soazic Kemener?
Oui, effectivement. Alors, la ministre de l'écologie, c'est Elisabeth Borne, mais c'est vrai que malgré le tournant qui était annoncé pour l'acte 2 du quinquennat, le fameux acte 2 qui est presque morné, on nous annonçait un moment de discussion, un moment d'écologie. C'est un peu d'ailleurs ce qui est promis pour ce nouvel acte qui semble s'ouvrir dans la bouche d'Emmanuel Macron. Alors, il y a eu quelques rendez-vous, il y a eu des choix écologiques qui ont été faits, et puis très vite, le cours du quinquennat a repris le dessus. Il y a eu la réforme des retraites, il y a eu cette crise du Covid, et puis dans le même temps, il y a cette conférence pour le climat dont on attend les conclusions, et Emmanuel Macron doit en tout cas prendre une décision, est-ce qu'il y aura un référendum ou pas. C'est là où on saura vraiment s'il a retenu quelque chose de toute cette période de discussion autour de l'écologie.
La crainte d'une deuxième vague expliquerait-elle la timidité de la reprise? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est évident. De toute façon, la crainte d'une deuxième vague et surtout la crainte qu'on n'ait pas encore maîtrisé l'épidémie fait que la reprise, de toute façon, ne peut pas être intense. On voit bien les histoires, les problèmes qu'il y a eu à l'école, où on n'a pas déconfiné rapidement et où, en septembre, on prendra encore des précautions. Et puis, c'est vrai que le gouvernement a très peur de se retrouver confronté en septembre-octobre à une résurgence de l'épidémie. Et c'est la raison pour laquelle ils essayent tellement d'avancer vite sur les vaccins et d'essayer d'avoir des garanties pour qu'on s'en procure.
Mais je crois que sur ce point-là, c'est peut-être le manque actuellement, peut-être pas forcément du président, mais du gouvernement, c'est de donner juste... On sait que si jamais il y a une vague 2, ce ne sera pas la même chose. Il n'y aura pas un confinement complet. Et ils ne donnent pas de piste, justement, comment ils vont confiner autrement, ils vont trier autrement. On a plus de choses.
Il aurait dû le faire.
Mais je crois qu'à un moment, il faut le dire à la population. Ça serait un moyen de rassurer, justement, les Français en disant... La vague 2, on sera prêt.
Le confinement m'a convaincu de moins dépenser et d'épargner plus. Je le dis sans aucune honte. Dans ces conditions, Jérôme Fourquet, ça ne va pas être facile de relancer l'économie.
Alors, c'est pas facile de relancer. D'une part, parce que pour rebondir sur la question précédente, on a encore 2/3 des Français qui sont inquiets face au risque de contamination. Donc c'est pour ça qu'une partie de la population ne remet pas ses enfants à l'école, ne l'emmène pas... ne va pas faire des emplettes dans les boutiques ou les restaurants. Et puis, par ailleurs, on a aussi une partie de la population qui va être sur de l'épargne de précaution. Les 60 milliards qui ont été mis de côté, ils ont été mis de côté parce que certains s'attendaient à des jours difficiles. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une polarisation de la société entre une partie de la population qui va être sur une thématique environnementale, cette crise nous a montré qu'il fallait faire autrement, et puis une partie importante de la population qui dit « mais nous, on n'a rien fait de mal et on aspire à reprendre le cours normal de nos vies ». Et donc, dans les mois qui viennent, on va avoir cette tension, par exemple, sur la question de l'automobile. Est-ce qu'il faut encore restreindre la place de l'automobile dans les villes ou sur d'autres types de consommation qui peuvent paraître un peu parfois surabondantes. Et donc, on va avoir cette polarisation du pays qui ne va pas être évidente avec des catégories qui ne sont pas dans la même situation sociale.
Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas été plus précis sur les mesures et les changements à venir ?
Alors, je pense qu'il n'a pas toutes les cartes en main. D'abord, souvenez-vous qu'il a demandé au président de l'Assemblée nationale, du Sénat et du CESE de lui faire une contribution pour savoir un peu ce qu'eux voudraient qu'on fasse dans une sorte de concorde nationale. Et donc, il n'a pas encore reçu les textes. Ensuite, toute la négociation sociale aujourd'hui autour des accords dont on parlait tout à l'heure, de l'activité partielle, on ne sait pas encore si ça va déboucher ou pas. Donc, il teste un peu une série de solutions. Et puis, je pense qu'il n'a pas encore complètement mûri la direction vers laquelle il veut aller. Donc, il y a quelques pistes. C'est travailler plus, pas de hausse d'impôts, peut-être remettre la réforme des retraites. Donc, il y a quelques pistes comme ça. Sur l'écologie, ouais. On attend son intervention devant la Convention citoyenne. Donc il n'y a pas toutes les cartes. Et je pense qu'il essaye aussi de tester à travers ses interventions télévisées, de voir un peu sur quoi réagissent les Français. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la politique des ballons d'essai. Vous lancez quelque chose, puis vous voyez comment ça réagit. Parce qu'au fond, le chemin est extrêmement étroit et qu'une fois qu'il l'aura pris, il ne pourra pas retourner en arrière.
Remaniement, dissolution, voilà. Démission. On a lu tout ça dans la presse, révision de tous les outils. Révision constitutionnelle.
Mais il a toutes ses cartes possibles sur la table. Alors bon, il y en a certaines, on sait que... Jacques Chirac, on sait qu'il y en a au moins deux qui sont très dangereuses, la dissolution et le référendum. La démission, moi j'y crois assez peu, je crois que ça se terminera probablement soit par un remaniement sans changement de Premier ministre, et auquel cas ça n'intéresse pas beaucoup les Français. La seule chose qui vraiment peut marquer, c'est un changement de Premier ministre, parce que c'est une incarnation, c'est une nouvelle politique qui s'ouvrirait. Et là, on rentre dans une autre problématique qui est le sort d'Édouard Philippe, qui n'a pas démérité.
Et qui n'a pas été tranché, le sort d'Édouard
Philippe. Et qui n'est pas tranché au moment où nous parlons, absolument.
Insatisfait alors que la France a manqué de masques, certains détruits en 2020, et de respirateurs au plus fort de la pandémie, s'interroge Pierre dans le Var, Soazic Kemener.
Mais effectivement, je pense que quand le président de la République s'est exprimé hier soir, alors il y avait énormément de Français devant leur poste et certains ont dû se demander effectivement pourquoi ils s'autorisaient cette autosatisfaction alors qu'eux sont restés sur le début de la crise et la façon dont la France a finalement très très mal géré le début de la crise et encaissé le choc de l'épidémie alors qu'il y a un choc mondial. Donc c'est là-dessus que le président de la République n'a pas trop envie d'insister et il veut passer à autre chose, c'est-à-dire expliquer comment, à ses yeux, le confinement était une excellente réponse et une excellente solution et à quel point le déconfinement a été bien géré et à quel point voilà, on peut recommencer à vivre normalement. Mais c'est sûr que cette histoire de masques et de tests il va rester dans le débat public pendant encore des mois et des mois.
Que nous disent les sondages d'opinion sur les oppositions ? Quelqu'un profite-t-il de la baisse de popularité d'Emmanuel Macron ? C'est une question pour vous, Jérôme Fourquet.
Oui, alors pour l'instant, on n'a pas d'illustration d'un opposant qui aurait bénéficié grandement de cette séquence. On verra ce qu'il en sera aussi. Il y a les sondages, mais aussi les élections, ça compte. Au moment des municipales, du deuxième tour, pour l'instant, on n'a pas le sentiment que le paysage politique soit grandement bouleversé. Personne n'a vraiment tiré son épingle du jeu. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui se passe du côté de l'écologie politique, puisque cette crise, pour beaucoup, a été analysée et perçue comme ayant des racines écologiques. Mais sinon, les oppositions habituelles, le Parti socialiste, les Républicains, le Rassemblement national ou la France insoumise, sont dans une situation qui est à peu près celle qui prévalait avant le confinement et avant cette parenthèse. Tout semble quand même aller vers le sens d'une analyse d'un confinement qui est joué comme une espèce de grande pause générale et on retrouverait les problématiques qu'on avait connues avant, y compris sur le plan électoral.
En moins de 2 ans et sans la confiance des Français, que peut faire Emmanuel Macron qu'il n'ait pas fait en 3 ans, C'est une question pour vous, François Fresso.
La seule chose qu'il puisse faire, c'est essayer d'identifier les 4-5 sujets sur lesquels, même si des oppositions se manifesteront, ça sera utile pour le pays. Et c'est vrai que, par exemple, reconstruire une certaine souveraineté autour, par exemple, des vaccins, des médicaments, ça, je pense qu'il peut le faire sans qu'on lui reproche quoi que ce soit. Ensuite, ce qui est beaucoup plus compliqué pour lui, c'est d'essayer de retrouver une cohérence de son quinquennat. On voit que, quand même que tout son discours, c'est de dire on n'a pas démérité, on va pas renoncer à nos objectifs de départ, simplement il faut les adapter, alors que tous les résultats sur lesquels il tablait pour appuyer son quinquennat ont complètement disparu.
Il n'y aura pas ni virage à droite, ni virage à gauche ?
Je pense pas. Bon. On le voit d'ailleurs dans la gestion de la crise des jeunes et de la police. Hein, ça a été très une recherche d'équilibre avec dénonciation du racisme et soutien à la police.
Surtout qu'il essaie d'effacer les mauvais souvenirs de ce quinquennat.
De son quinquennat ?
Son quinquennat.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h55. On se retrouve demain. Belle soirée.